One, two, three, four. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre heure de vie lausannoise dans ce grand direct. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce mardi 3 avril et ce numéro, le 140e du grand direct. Nous allons parler ce soir des questions syndicales, du Sri Lanka et de théâtre. Mais dans l'immédiat, nous allons commencer avec toi, Claudia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et nous sommes, ben, je l'ai dit, hein, le premier mardi du mois d'avril, puisque nous sommes le 3 pour être précis, et ça rime avec pause syndicale. Il sera ce soir question de maison pour les mineurs.
Oui, alors on va parler des mineurs migrants, les MNA, c'est les mineurs non accompagnés, et de la fermeture de 1 des 4 foyers de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, et les éducateurs et éducatrices qui voilà, ils ont lancé l'alarme. Ils ont annoncé aussi en grève s'ils ne seront pas écoutés par les autorités cantonales.
Ouais, un sujet plutôt brûlant qu'on va aborder ensemble ce soir dans le cadre de cette pause syndicale. À 18h20, ce sera la traditionnelle Rose des Vents avec toi, Daniel. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Nous allons parler de renvoi de personnes au Sri Lanka.
Alors oui, j'ai eu l'occasion d'aller à une manifestation le 21 mars organisée par le collectif Droit de Rester qui s'insurge contre les décisions du SEM. Qui estime que les Sri Lankais en fait peuvent être renvoyés sous un regard, on va dire, raisonnablement exigible. Drôle de terme en fait, pour finalement prendre de tels types de décisions. Et ce sera aussi l'occasion de revisiter indirectement la situation actuelle au Sri Lanka.
Oui, effectivement, un autre sujet plutôt brûlant au menu de la Rose des Vents et plutôt délicat, hein, comme vous le disiez en préparant cette émission. Enfin, on terminera cette émission à 7h20 avec Cultiver Lausanne. Et ce soir, ce sera avec toi, Isaora. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Ce soir, il sera question d'un portrait, celui d'un metteur en scène et auteur.
Et comédien, celui de Julien Mage, qui viendra nous parler un peu de son parcours et puis surtout de la pièce « Automne » qu'il a écrite et qui a été mise en scène par Jean-Yves Rouff et qui passe à la Grange de Dorigny du 12 au 15 avril prochain.
On dit même qu'il se joue, hein, je crois, dans le milieu.
Voilà, qui... ouais.
La pièce qui se joue tout bientôt, donc on décrypte notre invité, si on peut le dire, et cette pièce « Automne » dans la partie cultivée Lausanne de ce grand direct. Donc nous parlons de la pause syndicale avec la fermeture d'une maison d'accueil pour les mineurs, de renvoi au Sri Lanka et de portrait de metteur en scène, du metteur en scène Julien Mage avec cette pièce « Automne ». C'est le programme de ce 140e grand direct à écouter sur Radio Django et Radio La Fabrique grâce au DAB. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue à vous dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Bonsoir Claudia.
Bonsoir.
Et on est au menu de la pause syndicale que voici, que voilà.
La pause syndicale.
Et ce soir, tu nous proposes un sujet brûlant, puisque l'annonce de la fermeture de l'un des 4 foyers pour mineurs non accompagnés de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, les éducateurs et éducatrices sont prêts à faire la grève.
Oui, exactement Fabien. Solidaires et déterminés, 40 éducateurs et éducatrices qui travaillent pour l'EVAM, s'ils ne seront pas écoutés par les autorités cantonales, n'iront pas travailler pendant tout le mois d'avril. La décision a été prise le 19 mars lors d'une assemblée militante devant le foyer pour mineurs non accompagnés du Chablais. Les travailleurs et travailleuses sociales soutenus par le SSP, le syndicat des services publics Région Vaud, revendiquent des conditions d'accueil dignes pour ces jeunes et enfants qui sont arrivés en Suisse sans leurs parents, ainsi qu'une amélioration des conditions de travail pour les employés de l'EVAM.
Mais pourtant, Claudia, cette situation n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'en novembre 2016, déjà, 7 requérants d'asile mineurs non accompagnés avaient tenté de mettre fin à leur jour dans un foyer de l'EVAM. Le SSP avait donc, à ce moment-là, lancé l'alarme et demandé à l'EVAM de prendre des mesures. Hein.
Oui, alors les syndicats des services publics avaient demandé une amélioration de l'encadrement des mineurs non accompagnés, jugé insuffisant, surtout pour des jeunes et des enfants qui ont vécu vraiment l'enfer pour arriver jusqu'à ici en Suisse. Mmh. Et les syndicats demandaient aussi une amélioration des conditions de travail suite à une série d'arrêts maladie à répétition qui avait eu lieu au sein du personnel de l'EVAM.
Ouais, effectivement. Et avec Valérie, vous avez abordé cette actualité chaude, voire même brûlante et bouillante, avec Timothée Alder, délégué syndical de l'EVAM, ainsi que accompagné de Laetitia Pizzolatto, secrétaire syndicale SSP à Région Vaud. On écoute en commençant par un extrait d'une interview au syndicat du SSP qui s'était exprimé en 2016 au micro de la RTS.
Nous, on donne l'alerte depuis pratiquement le mois de janvier. Cet automne, on a eu deux rencontres avec la direction et le personnel a alerté effectivement sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien avec des jeunes qui ont subi des traumatismes, avec des tentatives de suicide, des jeunes qui s'automutilent, donc vraiment de très grosses difficultés et des moyens totalement insuffisants.
Dans cette interview diffusée le 11 novembre 2016 par la RTS, Michela Bovolenta du syndicat de la fonction publique dénonçait déjà les conditions de travail extrêmes dans le foyer pour mineurs non accompagnés de l'EVAM. À l'époque, 7 jeunes requérants d'asile avaient tenté de se suicider et les travailleurs et travailleuses sociales avaient lancé l'alarme.
Et aujourd'hui, pour parler de la situation dans les foyers de l'EVAM, nous recevons Timothée Alder, délégué syndical EVAM, et Laetitia Pizzolatto, secrétaire syndicale SSP Région Vaud. Alors, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc, suite à cette urgence qui a été dénoncée en 2016 par les syndicats et les médias, on pensait que le canton de Vaud avait pris la mesure du problème. Est-ce qu'il y a eu des améliorations, Timothée Alder?
Alors, il y a bien eu quelques mesures prises par le canton, quelques augmentations de postes, mais qui ont été faites essentiellement en réaction à la situation dramatique qu'on vivait dans les foyers MNA, qui se sont révélées finalement insuffisantes pour réellement résoudre ces problèmes, et qui surtout, dans leur application, ont été essentiellement de surface. C'était des améliorations sur le papier. Sur le terrain, on continue à avoir beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de départs. Les éducateurs ont l'impression de ne pas pouvoir faire correctement leur travail. Et le pire, c'est que maintenant, ils veulent nous fermer un foyer supplémentaire. Donc, en fait, même ces petites mesures, ces petites améliorations insuffisantes vont être supprimées maintenant. Et on va retrouver une situation de crise encore peut-être pire que celle qu'on a connue en 2016.
Donc, on voit que, en fait, les éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices des foyers de l'EVAM sont vent debout. Ils tirent la sonnette d'alarme, ils se mobilisent et nous allons écouter encore un reportage qui a été passé par la télé. Ça, c'était le 19 mars dernier.
Que tous les enfants du monde ont les mêmes droits.
Oui.
Même s'ils sont aidés par l'EVAM.
Oui.
Même s'ils ont risqué leur vie pour venir en Suisse.
Oui.
Même s'ils ont grandi à Kaboul.
Oui.
Merci.
Le ton était revendicateur ce lundi devant le foyer pour mineurs non accompagnés de Malais. Les éducateurs de l'EVAM ont crié leur ras-le-bol. Ras-le-bol après l'annonce de la fermeture définitive d'une structure similaire à Lausanne et la suppression de plusieurs postes. François est éducateur à l'EVAM. Ses conditions de travail ne lui conviennent plus.
Moi, je travaille dans le foyer depuis un an. Ça fait un an qu'on est en sous-effectif. Et du coup, c'est du fait de ces sous-effectifs, il n'y a pas d'éducateur le week-end. C'est-à-dire que sur le foyer, on a actuellement plus de 20 ados qui se retrouvent sans présence éducative et simplement avec deux surveillants. Je vois, on est à flux tendu, c'est-à-dire qu'on est à deux le matin, deux le soir. Il suffit qu'il y ait un arrêt, tu te retrouves tout seul le soir. Donc, pour les jeunes, c'est vraiment pas favorable.
On l'a écouté dans ce reportage de la télé. Le 19 mars, le personnel des foyers de mineurs non accompagnés rassemblés une assemblée générale devant le foyer de l'avenue de Chablais à Malais a voté à l'unanimité un préavis de grève. Mais qu'est-ce qui est passé?
Alors, lors de cet AG, le personnel qui était accompagné de quelques membres aussi d'associations qui nous soutiennent, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, ont pris connaissance de l'avancée du dossier, surtout du refus de rencontre qui nous a été opposé par le SPJ. Le fait aussi que l'EVAM n'entre absolument pas en matière sur les revendications. Prenant acte de cette opposition, le personnel a donc décidé d'un mouvement de grève qui se tiendra le 24 avril prochain, durant l'après-midi, et qui sera suivi par une manifestation à laquelle on appelle d'ores et déjà toutes les personnes concernées, touchées par cette situation, qui souhaitent nous soutenir à venir nous rejoindre sur la place du château à 17h30.
Donc une grève pour dénoncer des difficultés qui vivent tous les jours éducateurs et éducatrices de l'EVAM, mais quelles sont les difficultés que vivent les travailleurs, travailleuses sociales?
Alors les difficultés, elles sont innombrables. Pour en citer que quelques-unes, on a un taux d'encadrement qui est extrêmement faible dans les moments forts de la journée. 1 à maximum 2 éducateurs pour parfois 40 jeunes. Une absence d'éducateurs aussi pendant les week-ends, pendant les nuits, avec une reprise de situation par les éducateurs qui peut être extrêmement compliquée. Par exemple, le lundi matin, quand ils reviennent, où ils constatent l'état aussi moral de ces jeunes qui ont été un peu laissés à eux-mêmes. L'absence de moyens aussi pour un encadrement de qualité. Pas de véhicule, pas de possibilité de les accompagner à des activités, un espace qui n'est absolument pas adéquat. Des chambres à, je crois, 4 jeunes, des espaces pour manger qui sont beaucoup trop petits, donc des jeunes qui se bousculent aussi pour aller prendre leur repas, et simplement pas la possibilité pour des éducateurs, des travailleurs sociaux, simplement de pouvoir accorder un peu d'écoute.
Timothy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à quelles sont les difficultés qui vivent les éducateurs et éducatrices de l'EVAM au quotidien?
Oui, alors moi, comme l'a dit Laetitia, il y avait la problématique des effectifs et de la surpopulation en chambre. Un des gros problèmes, c'est l'organisation des foyers, qui sont hyper hiérarchisés, les hiérarchies ne se parlent pas entre elles, sont en conflit entre elles, et ça implique que pour les éducateurs, ils passent un temps et consacrent une énergie folle à assurer juste des besoins basiques pour les jeunes, à faire en sorte qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, qu'il y ait assez d'articles d'hygiène pour tout le monde, et ça leur prend un temps fou, et donc du coup, l'État se décharge en fait sur les bénévoles, sur des organisations annexes, pour assurer en fait ce qui devrait être l'essentiel de son travail, c'est-à-dire un travail éducatif et d'accueil de ces jeunes qui ont quand même risqué leur vie pour venir en Suisse, il ne faut pas l'oublier.
Deux jeunes qui ont risqué la vie pour venir en Suisse, qui ont carrément vécu l'enfer. On peut en dire plus sur les difficultés que vivent ces jeunes au quotidien?
Alors effectivement, nous, c'est notre position. On peut reprendre la réponse du SPJ par la voix de son chef de service qui nous explique que l'encadrement dans les foyers EVAM devrait être inférieur aux autres foyers qui sont, les autres foyers de la PSE sur le canton de Vaud, au motif que ces jeunes n'ayant pas de parents n'ont pas besoin qu'on s'occupe finalement de travailler le lien avec leur famille. À notre sens, alors ça on peut entendre peut-être, mais ça serait au contraire des jeunes qui nécessitent peut-être même plus d'encadrement, plus d'accompagnement, parce que justement, ils n'ont pas cette proximité familiale. Ça signifie aussi que c'est des jeunes qui arrivent complètement perdus dans une culture qu'ils ne connaissent pas, avec une absence de repères après avoir traversé quand même un nombre de kilomètres qui est, par rapport à nous, complètement hallucinant, pour débarquer en Suisse seuls. Donc oui, à notre sens, ces jeunes ont besoin, par le traumatisme de leur expérience, mais aussi le fait d'arriver tout seul, isolé, besoin d'une écoute, d'un encadrement, d'un suivi éducatif, aussi pour leur permettre, je pense qu'il faut leur rappeler, c'est des jeunes qui vont rester en Suisse, si on veut qu'ils puissent trouver une place parmi nous, s'intégrer, il faut leur donner aussi les outils pour pouvoir le faire.
Alors on a appris qu'un appel a été lancé dans le public et auprès de différentes organisations pour soutenir les revendications des salariés de ces foyers EVAM. Est-ce qu'il a été bien reçu?
Alors l'appel est très bien reçu. On est très content. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. L'appel est toujours en ligne, il est toujours d'actualité, donc pour les gens qui ne l'auraient pas encore rempli, on vous invite à le faire. Il est disponible sur la page internet du SSP Région Vaud. On a à ce jour plus d'un millier de signatures de gens qui nous soutiennent, des signatures qui sont arrivées sur le formulaire, des gens aussi qui nous ont envoyé des mails avec des textes de soutien. On les remercie vraiment. Pour les éducateurs et les éducatrices, c'est extrêmement important. On a aussi un certain nombre d'associations qui nous soutiennent, qui se sont exprimées par voie de presse aussi pour certains, pour nous soutenir. Et je redis, on va inviter tous ces soutiens, toutes les personnes qui se sont touchées à nous rejoindre lors de la manifestation du 24 avril.
On a eu aussi beaucoup de soutien à l'interne de l'EVAM. Il y a eu une très belle solidarité entre les travailleurs. Quand il y a eu suppression de postes, ils ont été mis en concurrence entre eux. La direction a essayé de diviser un peu les équipes en sachant qui aura les postes, qui sera licencié, quel contrat sera renouvelé ou pas. Et puis ben voilà, toutes les équipes se sont vraiment mobilisées là contre, on fait preuve de belle solidarité. Et puis c'est pas seulement un mouvement d'un soutien externe, mais je crois que c'est vraiment tous les VAM qui sont en train de prendre conscience qu'il y a une vraie problématique.
Et alors, donc on l'a entendu, le 24 avril, il y aura un appel à manifestation en fin de journée à 17h30 devant le château, si j'ai bien compris. Par rapport à la suite de votre mouvement, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la part de l'EVAM ou de la part des autorités cantonales? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le travail autour de ces jeunes réfugiés puisse se faire dans de bonnes conditions?
Alors, notre demande aujourd'hui, elle est extrêmement claire et on l'a résumée quelque part par un mot d'ordre assez simple. C'est les mêmes droits, le même accueil pour tous les enfants, quel que soit leur statut. Aujourd'hui, on est confronté à des autorités qui se renvoient la balle. L'EVAM nous indique que c'est pas la direction qui décide, c'est le Conseil d'État. Le SPG nous indique qu'il n'est pas en charge de cette mission, qu'il ne fait que d'accorder le droit de les recevoir. Du côté du département de M. Lebas, en charge de l'EVAM, on nous dit que le SPJ a validé. Enfin, tout le monde se renvoie un peu la balle. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est à l'EVAM de garantir un accueil de qualité, un accueil digne, selon les besoins de ses enfants et d'entendre son personnel sur le terrain. On demande au SPJ d'adapter ses normes, de poser les mêmes normes qu'elle va poser à la totalité des foyers. Finalement, lorsqu'une famille dysfonctionne, lorsqu'on considère qu'elle n'est plus en mesure d'offrir un environnement sain, adéquat à des enfants, on retire à ses parents le droit de garde. On demande au SPJ aujourd'hui de faire quelque chose de similaire, d'appliquer la même rigidité qu'elle applique en faveur des familles à l'EVAM, en disant aujourd'hui les conditions d'accueil que vous offrez à ces jeunes ne nous va pas, n'est pas possible, d'adapter ces normes et demander à l'EVAM de suivre et au Conseil d'État de donner les moyens aux professionnels sur le terrain de faire leur travail correctement dans le respect de leur déontologie et surtout dans le respect des besoins de ces enfants.
Et bien sûr, dans l'urgence, aucune fermeture de foyer, aucune suppression de poste. Et l'arrêt immédiat aussi du renvoi des enfants dans des foyers pour adultes quand ils ont des problèmes, ce qui est vraiment très grave, parce que ça, c'est pas prendre en compte leur intérêt fondamental d'envoyer des enfants qui ont justement le problème, donc qui ont besoin de plus d'encadrement dans des foyers pour adultes. Ça, c'est inacceptable. Et ça, ce serait par exemple une excellente raison de maintenir des foyers ouverts pour leur offrir justement à ces jeunes un encadrement spécifique.
Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose?
Je pense que c'est aussi important de dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de ces foyers, la seule chose qui tient encore les enfants, mais aussi les éducateurs qui les encadrent, c'est la bonne volonté des très nombreux bénévoles qui interviennent sur le terrain. Et à notre sens, même si ce travail des bénévoles doit être salué et reconnu à sa juste valeur, il n'est pas acceptable que l'État se déleste complètement de ses responsabilités sur des associations, sur des bénévoles, pour ne pas remplir ses missions et faire des mesures d'économie sur le dos des mineurs.
Merci beaucoup, Laetitia Pizzolatto, excuse-moi, et Timothée Alder d'être venu parler de cette problématique avec nous. Je laisse le mot de la fin à un jeune homme qui venait s'exprimer au nom des jeunes mineurs non accompagnés lors d'une assemblée en 2015. Et je pense que ça résume assez bien les attentes de ces jeunes. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
J'aimerais bien que la société suisse puisse aider ces gens-là. Ce sont des personnes qui n'ont plus de famille. Ils ont besoin d'un lien affectif. Ils ne sont pas coupables de malheurs qui sont passés dans leur pays. Ils sont obligés de venir ici au pire de leur vie. Alors, aidez-les. Aidez-les à s'intégrer. Aidez-les à s'épanouir. Aidez-les à construire un futur meilleur. Parce que ce sera l'avenir de la Suisse.
Merci beaucoup à Valérie et à Claudia pour avoir rencontré Timothée Alder, délégué syndical de l'EVAM, et Laetitia Pizzolato, secrétaire syndicale SSP Région Vaud, qui nous ont parlé de l'annonce de la fermeture de l'un des quatre foyers de l'EVAM. On le rappelle, hein, 40 éducateurs et éducatrices ont annoncé une grève s'ils ne sont pas écoutés par les autorités cantonales. Une affaire donc à suivre.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
À 18h20, place maintenant au résumé de ce qui fait l'actualité syndicale de ces derniers jours dans la région. Malgré le rejet de Nobilag, la lutte pour les médias publics continue.
Après la victoire contre l'initiative Nobilag à plus de 70%, le personnel de la SSR se prépare désormais pour le plan d'économie qui découlera de la réduction de la redevance radio-TV des 451 à 365 francs par année. Le plafonnement des recettes issues de la redevance aura pour conséquence un manque à gagner de 50 millions, à quoi s'ajouteront des pertes de recettes publicitaires à hauteur de 30 millions. Au total, les économies exigées pourraient s'élever à 100 millions. En attendant de connaître les projets de la direction, le SSM, syndicat suisse des masses médias, va s'atteler à organiser les employés de la radio-télévision publique en vue de la restructuration qui s'annonce. Que ce soit pour éviter des licenciements éventuels ou pour avoir un mot à dire sur les réformes réclamées partout durant la campagne. Les salariés de l'audiovisuel, contraints au silence pendant la campagne Nobilag, maintenant comptent faire entendre leur voix sur l'évolution du service public audiovisuel et sur l'importance de maintenir les emplois qui le rendent possible.
Syndicom dénonce les conditions de travail de 800 chauffeurs de cartes postales.
Depuis sa création, CarPostal externalise une partie de ses prestations. Cette démarche consiste à mandater des privés pour réaliser certaines tâches. À l'heure actuelle, près de 170 entreprises exploitent plus de la moitié des lignes jaunes. Et sur près de 3700 chauffeurs de bus jaunes, plus de 20% échappent aux conditions de travail négociées avec la régie. Depuis 2014, les sous-traitants sont pourtant soumis à un règlement négocié avec la régie et les syndicats pour s'aligner sur la convention collective de travail de la Poste. Mais une quarantaine de ces entreprises privées y échappent encore. Cela représente environ 400 chauffeurs dans toute la Suisse, auxquels s'ajoutent encore 400 employés comme auxiliaires par des entreprises signataires. Ces 800 chauffeurs sortent donc des conditions cadres de travail avec des différences de salaire de 5 000 et 10 000 francs par année. Les plans des horaires, les lieux de travail et les responsabilités en cas d'accident sont également différentes, relève le syndicat Syndicom, qui estime que ces inégalités de travail, dont ont profité à certains entrepreneurs mais aussi cartes postales, doivent être abolies dans une nouvelle CCT nationale.
Uber, le SECO donne raison à Unia.
Une trentaine de conducteurs travaillant pour le camp d'Uber avaient fait grève en décembre dernier à Genève. Ils étaient employés par des sous-traitants du géant américain installés dans les cantons de Vaud. Des chauffeurs dénonçaient des graves violations du droit du travail, des salaires de moins de 10 francs de l'heure et le non-paiement des assurances sociales. Saisi par Unia, qui défend ses chauffeurs, le secrétariat d'État à l'économie a confirmé que les conducteurs des sociétés partenaires d'Uber qui utilisent son application sont bel et bien des employés et non des travailleurs indépendants. En délivrant les ordres de course, en déterminant leur prix et la rémunération des conducteurs, Uber traite les chauffeurs comme ses propres employés, estime le SECO. Les sociétés travaillant pour Uber sont dès lors des entreprises de location de services et doivent disposer d'une autorisation pour pratiquer cette activité. Elles doivent aussi respecter la convention collective pour le travail temporaire qui prévoit un salaire minimum de 19,75 francs de l'heure dans la région lémanique. Si l'avis du SECO ne concerne pour l'instant que les chauffeurs travaillant pour des sociétés sous-traitantes d'Uber, elle est une victoire historique pour Unia qui exige l'application de la loi sur le travail et le paiement des assurances sociales à ce type de personnel. Du côté des conducteurs concernés, des dossiers ont été déposés au Prud'homme pour obtenir des arriérés de salaire.
Bientôt la fin de la discrimination envers les Kosovars.
Les retraités ou rentiers kosovars retournés au pays devraient à l'avenir pouvoir toucher à nouveau leur rente AVS ou AI. Le Conseil fédéral approuve une nouvelle convention de sécurité sociale négociée avec Pristina, convention qui doit être encore recevoir l'approbation du Parlement. Depuis 2010, cet accord de sécurité sociale n'existait plus, ce qui a pénalisé des milliers de Kosovars qui n'avaient plus droit à recevoir leur retraite ou leur rente alors qu'ils avaient cotisé des années durant. UNIA s'était mobilisée de 2010 pour arrêter cette discrimination du seul fait de l'origine des salariés, les plongeant dans une précarité absolue. La date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue, il faudra donc patienter.
Clinique Corella, victime, annoncez-vous.
Le syndicat UNIA invite tous les membres de l'AI ou autres assurances auraient rendu une décision négative suite à une expertise de la clinique Corella à Genève. Un arrêt du tribunal fédéral a confirmé les graves manquements et violations de devoirs médicaux au sein de cette clinique, en particulier par son médecin répondant en matière d'expertise. Ce jugement permet de demander une révision ou une reconsidération d'une décision de refus, de rente ou d'indemnité. Il faudra encore démontrer qu'un refus a été donné sur une base faussée. Mais cela en vaut la peine et il faut agir vite. Le délai pour entreprendre les démarches court jusqu'à fin avril. Les personnes se sentant concernées sont invitées à passer au plus vite à la permanence UNIA proche de leur domicile.
Voilà pour les actualités des brèves syndicales qui nous étaient proposées aujourd'hui avec brio par Claudia. Merci beaucoup.
Merci.
Rendez-vous avec l'actualité de la pause syndicale tous les premiers mardis du mois. La prochaine sera début mai, évidemment. Merci encore à toi, Claudia, et à Valérie, avec qui vous avez préparé ce sujet sur les conditions d'accueil difficiles pour les mineurs non accompagnés de l'EVAM, qui a, on le rappelle, annoncé la fermeture de l'un de ses 4 foyers et qui va se mettre en grève tout bientôt si la situation n'évolue pas. Un sujet à retrouver avec les détails sur notre site www.django.fm et bien sûr sur notre Facebook Radio Django.
Jamais su. Non, non, on est dans toutes les langues, nada. Le bossu ne fait pas sa vie avec Esmeralda. En tout cas, si tu crois, je te pince. C'est dans les rêves que les bergères épousent des princes. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. J'accuse d'être de toutes les combines, 4 épouses et combien de concubines. Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut, et qui prend l'ascenseur pour l'échafaud. Je fais la confidence assez tordue, mais je l'ai dit et redit. Et si tu lis ma bio, tu lui trouveras une enfance comme il faut. Si tu cherches le Bronx, reste dans ton ghetto. Et s'il est véridique que je suis né dans la rue, je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je prends pas forcément ce que propose la vitrine. J'écoute la voix qui dit, va chercher la lumière. Je vais pas courir la vie entière, je vais pas m'échapper davantage. Derrière le tramway qui s'appelait déjà dégage. Je vais pas attendre qu'on m'épluche, la tête dans le sable comme une autruche. Je cours, je galope et jusqu'à bout de souffle. Je cours dans la neige sans les moufles. Ainsi est la rencontre du quatrième type. Retour à l'expéditeur, c'est pas le bon prototype. Je sais où je gêne et que j'ai des herbes, celui qui tourne l'oxygène. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis...
Double peine cette chanson qui est signée Zebda pour vous sur Radio Django et Radio La Fabrique.
Radio Django, la rose des vents.
18h29, c'est la Rose des Vents. Nous allons parler de Sri Lanka ce soir et on va revenir sur la manifestation organisée par le collectif Droit de Rester. C'était le 21 mars à Lausanne. Un rassemblement pour dénoncer le renvoi de plusieurs Tamouls par vol spécial. C'était pour le Sri Lanka, bien sûr.
Il y a une semaine, 11 Tamouls ont été renvoyés de force. Nous nous situation toujours instable, particulièrement pour les minorités au Sri Lanka.
Alors Daniel, à quel titre droit de rester a soutenu ce rassemblement ?
Présente à cet événement, j'ai tendu mon micro à Aline Favra, membre de Droit de Rester et co-organisatrice de ce rassemblement avec la communauté tamoule de Lausanne et sa région.
Alors Droit de Rester est une organisation qui est un collectif hein, qui défend des migrants mais qui est avec les migrants. Donc les personnes réfugiées qui ont été surtout déboutées de l'asile font partie du collectif et on essaye de les soutenir. On leur donne aussi la possibilité de s'organiser, de s'auto-organiser aussi dans leur lutte. Là, on est en train d'organiser une manifestation contre les renvois au Sri Lanka avec la communauté sri-lankaise de la région et un certain nombre de personnes déboutées qui sont menacées de renvoi à l'heure actuelle et qui ont peur pour leur vie en cas de renvoi sont présentes dans la manifestation.
Pourtant, Daniel, d'après un rapport du SEM, le secrétariat aux migrants, un rapport signé de 2016, la situation au Sri Lanka semble plus clémente et montre des progrès en matière de sécurité et des droits de l'homme.
En effet, d'après le SEM, la situation de ce pays depuis le changement de gouvernement en 2015 serait plus stable et plus sécuritaire, ce qui justifie ces renvois raisonnablement exigibles. Or, ce pays ne reste pas sûr pour toutes les personnes renvoyées. Écoutons à ce sujet un deuxième extrait de l'interview de Aline Favra, membre de Droit de Rester.
On sait que la situation au Sri Lanka n'est pas encore stabilisée, qu'il y a encore des personnes victimes de torture, de disparition. Et depuis la fin de la guerre, la justice n'est pas encore fonctionnelle. Donc on est à l'heure actuelle toujours préoccupé par le sort de la minorité tamile et comme on vient de le voir aussi, de la minorité musulmane qui vient d'être victime de violences intercommunautaires par des bouddhistes singhalais dans la région entre autres de Kandy qui était pourtant une des régions les plus multiculturelles et multiethniques du Sri Lanka.
Alors brièvement, Daniel, pour qu'on comprenne bien, quelles sont les origines de ces tensions intercommunautaires ?
Tenu de faire court, je prendrai des raccourcis et m'excuse déjà auprès de nos invités, de nos auditeurs. Si je fais l'impasse sur des moments clés de l'histoire de l'île de Ceylan, devenue en 1972 le Sri Lanka. Jusqu'aux conquêtes européennes, cohabitent sur l'île de Ceylan deux communautés, tamoules et singhalaises, constituées en royaume. Ainsi, durant des siècles, les Singhalais, bouddhistes et les Tamouls, pour la plupart hindouistes, se sont partagés le pouvoir de l'île dans une relative harmonie. L'arrivée des Britanniques en 1796 a cependant bouleversé ce fragile équilibre, entraînant par son mode de gouvernance des divisions entre les communautés et en refusant d'instaurer un système fédéral pourtant réclamé par les Tamouls et les Singhalais. En 1948, l'île devient indépendante, un gouvernement pro-singhalais s'impose. Le singhalais devient la langue officielle du pays et le bouddhisme la religion d'État. Durant cette période, les Tamouls sont presque évincés du gouvernement et de la vie politique. En 1972, l'île devient officiellement la République socialiste démocratique du Sri Lanka. Les tensions restent très vives entre les deux communautés et c'est à cette période qu'émergent les premiers mouvements séparatistes. En 1974, des Tamouls souhaitent créer un État indépendant, les Lam Tamouls, rêve porté jusqu'à nos jours par le mouvement des Tigres libérateurs de les Lam Tamouls. En 1983, le Sri Lanka plonge dans une guerre civile opposant les groupes séparatistes tamouls et le gouvernement en place. Les ravages de la guerre ont conduit massivement les Tamouls à quitter le Sri Lanka. Et si depuis 2009, l'île n'est plus en guerre, les Tamouls continue d'être menacé, persécuté.
Effectivement, une situation plutôt compliquée. Hein. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités sri-lankais d'origine tamoule. Kirtigan, bonsoir.
Bonsoir.
Et Kumar, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez participé les deux à cette marche contre les renvois forcés des Tamouls au Sri Lanka. Pour ce qui vous concerne, Kumar, vous êtes en Suisse depuis quelques années, vous êtes en l'attente d'une décision du SEM. Quant à vous, Kirtigan, vous êtes arrivé en Suisse adolescent, vous poursuivez actuellement des études à l'ECAL, hein, l'école cantonale d'art de Lausanne. Et ce soir, vous allez interpréter et traduire les propos le mieux possible puisque vous allez nous rapporter le contenu de l'idée du propos de Kumar. Alors, Kirtigan, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce fameux rassemblement ?
Pour moi, simplement les deux raisons. Le premier, c'est vraiment montrer mon solidaire personnel. Je dois être avec ces gens parce que j'ai vécu le même parcours il y a quelques années. Et donc, c'est vraiment montrer mon solidaire. Et la deuxième raison, simplement pour dire le gouvernement suisse, si il y a quelque chose qui arrive pour les gens qui sont renvoyés, forcés par l'État de Suisse, si quelque chose, une nouvelle menace qui arrive pour les gens, voilà, c'est vous êtes responsable. Nous, on est déjà dénoncé, on a fait la manifestation, on a dénoncé. Maintenant, c'est vous pour montrer ça.
Kumar, également présent à cette marche, pour quelles raisons avez-vous choisi de manifester ?
நான் ஆர்ப்பாட்டத்தில் காரணப்படுத்தது வந்து 2009 எனது அண்ணா வந்து காணாமல் போனார். அதாவது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திட்ட ஆமிட்டு நாங்கள் ஒப்படைச்சு நாங்கள் அவர் வந்து இதுவரைக்குமே விடுதலை செய்யப்படவில்லை. அதே பிரச்சனை எனக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தால என் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை, என் அண்ணாந்த உயிருக்கு ஆபத்தில்லை, அப்படியால் எந்த உயிருக்கும் ஆபத்தில்லாம் நம்ம வந்தபடியாக தான் நான் சுவிஸுக்கு அகதியாக வர வேண்டிய காரணம்.
En 2009, le dernier moment de la guerre, mon frère, il a arrêté par le gouvernement sri-lankais et l'armée sri-lankaise et il a disparu. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune nouvelle de lui. Ce qu'ils savent, simplement, ça c'est vraiment devant eux, ils ont arrêté. Il n'y a pas de nouvelles. Donc, c'est la même menace qui existait pour lui et donc il doit fuir le pays.
Donc il y a des risques probants de rentrer au Sri Lanka. Dans quelle mesure pensez-vous que marcher et manifester pourrait en fait faire changer la position du SEM ?
நீங்க இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துல பங்கெடுத்தபடியா சுவிஸ் அரசிட்ட இருந்து எது மாற்றம் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா, எதிர்பார்க்கறீங்களா?
கட்டாயம் நம்புறேன் சுவிஸ் அரசு உங்களுக்கு எங்களை ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் உண்டு. ஏன்னா உண்மையிலே ஸ்ரீலங்காவில் பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஒரு உண்மைக்குரிய விஷயம். அதனால சுவிஸை நம்புறோம் நாங்கள், எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு முடிவு தரும் உண்டு.
Il a l'espoir vers le gouvernement suisse et il doit comprendre que la situation en Sri Lanka, surtout pour le Tamoul, qui n'est pas améliorée, il faut comprendre cette vérité. Donc il a l'espoir vers le gouvernement Sri Lanka, ils vont changer leur position.
Pourtant, en 2016, un accord est signé entre la Suisse et le Sri Lanka pour faciliter la réadmission des déboutés de l'asile.
ஆனால் 2016 சுவிஸ் அரசாங்கம் இலங்கை அரசாங்கம் சேர்ந்து ஒப்பந்தம் செஞ்ச வேல் அந்த ஒப்பந்தம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதிகளை திருப்பி அனுப்பப்படுறது பற்றி சேர்ந்த அந்த ஒப்பந்தம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க?
சுவிஸ் அரசாங்கம் வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் நார்மலாக நாடு நல்லா இருக்குன்றபடியால் ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் நாட்டில் வந்து நிலைமை இன்னும் சரியாக வேற இல்லை, இன்னும் பிரச்சனை நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. நாட்டில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்ற காரணத்துக்காக அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன். நாட்டில் ஒரு முடி பிரச்சனையும் இல்லை, நாட்டில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையாண்டாக்கான்னு சொல்லி தான் அவையில் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்துக்கிட்டோம். ஆனால் உண்மையிலே நாட்டில் பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்குது.
எந்த மாதிரியான பிரச்சனை? அதாவது இப்போ திருப்பி அனுப்பப்படுறவர்களுக்கு,
திருப்பி அனுப்பப்படுறவர் ஒரு மாதம் இல்லாட்டி 1.5 மாசத்துக்குள்ளே திருப்பவும் அதே பிரச்சனை. அவையில் புலிஸ் தேடி போகிறது, அவையில் வந்து நிரந்தரமாவுடன் இருக்கு, ஏதோ ஒரு காரணத்தால் திருப்பியும் அவையில் அரெஸ்ட் பண்ணி திருப்பியும் அவைகளில் தடுப்புகளை வைத்து கொண்டு.
Pour lui, son point de vue, cet accord simplement pour montrer à la communauté internationale que voilà, dans notre pays, il y a de la paix, donc on respecte ce contrat. Mais par contre, c'est la vérité, il a dit que le problème, surtout les menaces, existent toujours. Pour les gens qui ont renvoyé depuis Suisse, peut-être, c'est pas tout de suite qu'il y a une menace, peut-être un mois plus tard, ils vont attendre fait exprès. Après, petit à petit, par une autre voie, l'investigation, ça commence.
Concrètement, quelle nouvelle est-ce que vous avez du Sri Lanka qui permettrait de comprendre en fait aux Suisses ce qui se passe réellement quand une personne est renvoyée quand on est d'origine tamoule?
சுவிஸ்லேருந்து நாடு கடத்தப்படுற ஒரு தமிழ் அகதிக்கு உண்மையாக என்ன நடக்குது? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற தகவல் படி அவைகளுக்கு என்ன நடக்குது?
உண்மையில் அவைகளுக்கு 1.5 மாசத்துக்கு பிறகு இல்லாடி 1 மாசத்துக்கு பிறகு உண்மையில் அவைகளுக்கு எதன்னா ஒரு காரணத்தை காட்டி நீ இயக்கத்தோடு இருந்தேன்னு எதன்னா ஒரு சம்மந்தப்பட்டது உண்மையில் இயக்கத்தை சப்போர்ட் பண்ண எதன்னா ஒரு காரணத்தை திருப்பி அவையில் வந்து திருப்பவுமே தடுக்க வைக்கப்பட்டு தடுப்பில் கொண்டு போட்டு அடைச்சி சித்திரவை செய்து நடக்குது. அதான் உண்மை.
இப்போ நீங்கள் கடைசியாக நீங்கள் சந்தித்தவருக்கு என்ன நடந்தது?
அவர் வந்து இன்னும் வீட்டுக்கு போயில்லை, அவர் வந்து இன்னொரு இடத்துலாம் இருக்கிறேன், அவற்ற வீட்டை இன்றைக்கு போய் புலஸ் விசாரிக்க தாயிட்டு அவர் சொல்லிக்கா இங்கே வேற எல்லா கொள்ளையில் என்ன சொல்லி திருப்பவும் இப்போ ஒரு மாதம் 1.5 மாதம் தான் அவர் போய் திருப்பியும் அதே பிரச்சனை. புலஸ் போய் தேடியா வேற விசாரணைக்கு அங்கே வா இங்கே வா புலஸுக்கு வா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கரைச்சல் கொடுத்து கொண்டு.
Il a dit que par rapport aux nouvelles que il pourrait avoir par des amis qui ont renvoyé depuis quelques mois. Et c'est toujours, il y a une investigation, il y a une enquête, mais juste quelques mois plus tard, par une autre raison, il vient. Mais surtout, le dernier vol spécial que le Suisse qui fait il y a 2 semaines, un ami à lui, il parle ce matin, et il n'est pas encore allé chez lui. Et même ce matin, les polices qui sont allés chez lui, et ils ont fait une enquête avec sa mère pour rechercher il est où. exactement.
D'après un document de l'OSAR, juste pour résumer, effectivement, il semblerait que des personnes soient intimidées, que les familles soient intimidées et que des personnes soient incarcérées. Maintenant, vous êtes accompagné par Droit de Rester depuis quelques mois. Quelles sont vos attentes par rapport à cette organisation ?
இப்போ இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு கொலெக்டிவ் துரோதரஸ்தி அந்த அமைப்பினர் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தவையல் ஸோ அவையில் அந்த ஒழுங்கு செஞ்சிருந்தவையல் நீங்கள் அவையிலிருந்து பேர் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அல்லது இந்த மாதிரி ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற அமைப்புகள்லேருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க?
என்னென்னா நாங்கள் இங்கே அகதியாக தான் வந்து நாங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒருத்தருமே இல்லை. அவையில் வந்தவங்களை சப்போர்ட் பண்ணது ஒரு பெரிய விஷயம். அந்த பெரிய உதவியை திரும்ப எங்களோட சேர்ந்து செய்யணும்னு சொல்லி நான் இன்னும் அதிகமாக எதிர்பார்க்குற விஷயம். அதில் வந்து செய்த உதவி எங்களுக்கு பெரிய உதவி. என்ன சொன்னால் நாங்கள் அகதியாக வந்து உதவமில்லாத இடத்துல வந்து அவையில் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணது பெரிய உதவி. அந்த உதவியை தொடர்ந்து எங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிற ஒவ்வொரு ஆர்ப்பாட்டங்களையும் எங்களோட சேர்ந்து செய்யணுமாண்டு மிகவும் தாழ்மையோடு கேட்டு.
இல்லை தபோர் இல்லை ஹ்ரோ மெர்சியே லு கொலெக்டிவ் பஸ்க்கு கம் நூ ஒன் வேன்யூ கம் ரெஃப்யூஜியே உன் கொண்டே பர்சன் சப்ரமாக ஒன் எதோ சினிமா தான் கொன்யூ தோன் சே தேஜா தூத் தூத் பிரிமியர் சுத்தியம் பெத்தி சுத்தியம் சனு சனு சேத் சனு துஜூர் கர்தே சேத்தே சுப்போ தோக்கு இல் பூலே சம்பளமும் தீர்க்கு essayer de continuer à soutenir pendant tout le combat vers pour demander ce qui est arrivé pour nous comme une injustice.
Que fait la communauté tamoule installée en Suisse pour vous soutenir?
Kuripa ilange Suisse la irukra tamoul makkalta neenga enna kekka varumbring
naan anaivaratte kettukolla oru vishayam vande naangal seigira inda poraattathila vande inge irukkirargal இல்லை இங்கே பிறந்து வளர்ந்தாக்கள் எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணணும். அது அங்கே நடக்கிற பிரச்சனையை வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் தெரிவிக்கணும். உண்மையில் ஸ்ரீலங்காவில் பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்லி இன்னும் வந்து அதிகமாக எல்லாரும் சேர்ந்தால் தான் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வரும். நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களோட வந்து ஒத்துழைக்குமாறு மிகவும் தாழ்மையோட கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
இல்லை தேவஸ்பரா கம்யூனிட்டி ஸ்ரீலங்கேஸ் இல்லையா புக்கு ஜோங்கிசும் நேஇசி விவேஇசி அவைக் லிசோத் கம்யூனிட்டி தோங் புத்தேத்த Par vous, vous pouvez communiquer avec les autres communautés, même pour le gouvernement suisse, vous pouvez communiquer mieux que nous pour sensibiliser, pour partager ce qui arrive. Donc, essayez de continuer à sensibiliser autour de vous.
Mais c'est d'ailleurs la volonté de Droit de Rester, de faire un appel à la communauté internationale. Mm-hmm. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, en fait, un cri du cœur à l'endroit de la communauté tamoule qui est en Suisse et qui est menacée d'être expulsée. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en fait aux auditeurs pour qu'on puisse enfin prendre position et plus se mobiliser peut-être?
So kadesiya neenga poduva amma Swiss arasanga time inda makkal te neenga enna kekka virumbringa
ummaila enna enna porathukku inda engala ellarum porathukku illa Sri Lanka la prachana ummaila nadandu kondirukku chithravai nadandu kondirukku thadappungal irundhu onna irukku kaanava ponaangal oru mudivum illa ummaila naan Swiss arasanga kitta makkal kitta seri arasanga kitta seri nam taalmayoda kettukollugiradhu anga nadakkira prachana vandu innume veliyala veraama nadappattu kondirukku kadanda காலப்பயில் நடந்த பிரச்சனை வந்து பேஸ்புக்காவிலேயே எந்த ஒரு நிமிஷாலையும் வராத அளவுக்கு தடை பண்ணி வச்சிருந்த அரசாங்கம். அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு நடக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையுமே வெளியால் வராத அளவுக்கு தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறது. அந்த நிமிஷம் வந்து ஒரு தடவை வெளியாகாத பிரச்சனையால்தான் இந்த உண்மையில் ஸ்ரீலங்கா பொறுத்த மட்டும் இல்லை பிரச்சனை நடந்து கொண்டா இருக்கிறது. அதான் என்ன பொறுத்தவரை முடிவு சுவிஸில் இந்த அரசாங்கத்திட்டையும் இந்த மக்கள்கிட்டையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பு தரும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Il a dit que d'abord accepter la réalité et ne croyez pas le mensonge du gouvernement Sri Lanka. Le problème c'est toujours existe, surtout pour le torture contre les Tamouls et les disparitions forcées, ça existe. Et il y a encore beaucoup de prisonniers tamouls qui sont restés dans les prisons. Donc c'est toujours le problème existe, simplement les médias qui sortent pas les informations à l'extérieur de Sri Lanka. Donc essayez de vraiment accepter les réalités, essayez de retrouver vous-même la réalité d'abord pour comprendre qu'est-ce qui arrive en Sri Lanka.
À cet égard, Amnesty International vient de sortir justement un rapport sur la situation au Sri Lanka et j'invite les auditeurs à le découvrir.
Merci beaucoup pour cette précision, Daniel. Merci également à vous, Kumar. Une bonne soirée. Merci à vous, Kirtigan, pour la traduction et votre participation ce soir à cette émission. On retiendra que la Suisse a signé en 2016 un accord migratoire avec le gouvernement sri-lankais pour faciliter la réadmission des déboutés de l'asile. Dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Les Tamouls renvoyés au Sri Lanka restent en proie à des persécutions de retour sur l'île. Daniel, cela revient à dire que ces décisions de renvoi orchestrées par le SEM ne tiennent pas du tout compte de la situation actuelle de l'île traversée aujourd'hui par des nouvelles violences intercommunautaires.
Absolument. C'est comme si la Suisse fermait les yeux sur certaines réalités du Sri Lanka, mais il y a un revers de médaille. Rappelons que la Suisse a été condamnée en janvier 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme à verser 30 000 euros pour tort moral à un requérant
d'asile tamil débouté et renvoyé de force en 2013. Et arrêté à son arrivée au Sri Lanka, il a été torturé puis incarcéré 2 ans. Ce n'est pas un cas isolé. Un autre cas vient de paraître dans la presse suisse concernant le dédommagement d'un autre Tamoul expulsé au Sri Lanka.
Voilà, c'est d'ailleurs dans ce cadre que le collectif Droit de rester demande à la Suisse d'agir au plan international pour que le Sri Lanka puisse entamer un réel processus de paix et qu'il puisse respecter les droits fondamentaux de ces minorités. Merci beaucoup Daniel pour ce sujet.
Merci. Merci.
Anaï Tamil, qui est une chanson qui était proposée par nos deux invités de ce soir, Kirtigan et Kumar, c'est pour clore cette rose des vents.
Radio Django, culture.
18h47, on ouvre le volet culturel de ce grand direct avec toi Isaora, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabien.
Il va être question de théâtre avec notre invité Julien Mage, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Nous allons parler évidemment de votre parcours en tant qu'auteur, metteur en scène et comédien, mais on va aussi parler de votre actualité, hein, puisque c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Autumn. Elle sera jouée du 12 au 15 avril prochain à la Grange de Dorigny. Vous êtes issu de la première volée, Julien Mage, vous êtes issu de la première volée de la Manufacture à Lausanne, où vous avez suivi des études de comédien, vous avez joué d'ailleurs dans plusieurs pièces de théâtre, et vous êtes auteur roman désormais confirmé avec à votre actif l'écriture d'environ 30 pièces en comptant les longues et les brèves, dont 14 que vous avez mises en scène. Julien Mage, l'art du jeu et de l'écriture vous a forgé au théâtre, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes d'abord auteur plutôt que metteur en scène ou comédien ?
Actuellement, je vis une période charnière. J'ai été avant tout homme de théâtre en rentrant à la Manufacture, parce que quand on fait une école de théâtre, on ne sait jamais quelle sera notre spécialité future. Donc au départ, j'étais avant tout homme de théâtre et petit à petit, la carrière avançant, on se distingue davantage comme comédien, metteur en scène ou même dans la technique. Et moi, je suis devenu, il est vrai, auteur assez rapidement. J'ai écrit des pièces avant la Manufacture, j'en ai écrit pendant et après. J'ai créé un collectif au sortir de la Manufacture qui s'est réuni autour de mon écriture. Et maintenant, on peut dire, après une dizaine d'années d'écriture et de mise en scène de mes pièces, je commence par abréger mon apprentissage de l'écriture. Alors, théâtrale, pardon.
Oui. Alors, Julien Mage, plus de 30 pièces que vous avez signées, c'est quand même un nombre considérable pour votre jeune âge. On ne dira pas combien vous avez.
18 ans.
Voilà, 18 ans. Hein,
mouillé derrière les oreilles.
Mais où est-ce que vous puisez votre inspiration ?
Ouh là là, la question de l'inspiration, elle est très complexe. Je pense que c'est à la fois, comme on dit toujours, du travail, le plongeon dans un sujet. Il y a quelques années, en 2013, je me suis intéressé par exemple aux tueurs de masse, parce que nous avons eu des événements sinistres de cet acabit. Les tueurs de masse qui faisaient rage aussi aux États-Unis, etc., et qui se sont mélangés maintenant au terrorisme. Donc on plonge dans un sujet, on le médite et on travaille sur l'œuvre après, en choisissant la forme de la pièce, soit dialoguée, souvent dialoguée, monologuée, une pièce classique avec narration ou sans narration. Pour le coup, c'était une pièce qui était plutôt une pièce post-dramatique, sans narration, mais avec des espèces d'éclats de jeunes qui parlent de leur envie de vengeance, de leur envie de violence, etc. Et c'était au final une étude sur la violence. Donc j'ai envie de dire, c'est presque comme un chercheur en histoire, un étudiant en lettres ou autre. On étudie un sujet et après on va écrire une histoire et les choses vont descendre comme ça. Les choses ne descendent pas toutes seules comme l'image d'Épinal qu'on a de l'écrivain dans sa mansarde. C'est du travail, c'est une investigation et c'est l'écriture à proprement parler.
Parce
un
que vous...
plan, oui. Voilà.
Mais oui. J'ai pu voir que vos thèmes de prédilection, à l'origine, c'est plutôt les relations de famille, de couple, et puis aussi, ben oui, souvent aussi la mort, de ce que j'ai pu voir, hein,
oui,
la
je
mémoire.
Me suis, bien sûr, je me suis beaucoup intéressé aux relations de petites cellules d'individus,
voilà.
La famille, le couple, un groupe d'amis en marge dans Les Perdus qu'on a monté au Théâtre de Vidi, c'était en 2008, c'était une de mes premières pièces au Théâtre de Vidi. La première au Théâtre de Vidi, j'en ai fait plusieurs après avec René Gonzalez, feu René Gonzalez qui m'a accompagné. Voilà.
Mais, et puis finalement, comment vous vous définiriez-vous ? Parce que j'ai pu lire à votre sujet qu'on vous qualifiait d'une part d'auteur moraliste, de révolutionnaire avec comme seule arme la plume. Vous vous dites vous-même auteur qui ne revêt pas l'uniforme de la forme. On vous qualifie d'auteur remarquable, impressionniste et poétique. Vous en pensez quoi ? Vous vous définissez comment ?
C'est des mots de journaliste et d'auteur, d'auteur journaliste, on va dire. Maintenant, avec un début de maturité, on va dire, avec mon grand âge, plus j'avance, plus je me perds dans l'évocation de moi-même. Je crois que un écrivain, un auteur, un créateur, de manière générale, plonge dans des matières, essaye de suivre un sillon qui creuse. Et c'est difficile à s'auto-définir, c'est les autres. C'est d'ailleurs, vous citez des journalistes.
Oui, très bien.
Venons-en peut-être maintenant à votre pièce. Hein. Elle s'intitule « Automne ». Elle a été jouée à Genève, Sion, Neuchâtel. Elle sera même à l'affiche maintenant de la Grange de Daurigny. Hein. Ce sera du 12 au 15 avril. Cette pièce, c'est le dialogue d'un couple de personnes âgées qui se questionnent et qui questionnent son existence. Une incursion très intime dans la vie de ce vieux couple, à la fois drôle et émouvante. Comment vous est venue l'idée de cette pièce, « Automne » ?
Alors j'étais en avance au théâtre à Genève et un couple de 80 ans était assis à côté de moi. Nous étions les seuls dans le bar et j'ai vu le monsieur du couple lire à sa femme le programme de la soirée, enfin le résumé de la biographie de l'auteur. C'était une pièce de Horvath et j'ai trouvé cette image tellement tendre et l'idée qu'ils soient là au théâtre et qu'ils aient passé peut-être 50 ans ensemble et que encore le monsieur avait cette tendresse de lire à sa femme le programme. Et je me suis dit, tiens, on parle pas de ces gens-là, on fait rarement des pièces là-dessus. Je sais pas, ça m'a. Ça... Là, pour le coup, oui, ça a été une espèce d'inspiration. j'ai commencé à écrire un dialogue sur une feuille à côté, sans penser en faire une pièce un jour. Puis petit à petit, la trame est née, la péripétie, la pièce, les personnages. Je me suis inspiré à la fois de mes grands-parents, mais j'écoutais les personnes âgées parler dans le train ou dans des bars, au restaurant plutôt. Et voilà, c'est une pièce qui est née comme ça, quoi.
Oui. Et dans votre pièce, vous abordez plusieurs thèmes, hein, la vie, la mort, la transmission, mais aussi l'amour, la complexité du couple et surtout les non-dits inévitables dans un vieux couple. Hein. C'est une pièce qui pourrait être tragique, mais qui ne l'est pas au final. Et puis, elle se veut drôle, émouvante, avec des touches d'humour qui font qu'à la fin de la pièce, ben, il paraît que les spectateurs veulent en savoir plus et connaître la suite. Quelle a été votre ligne directrice pour trouver une telle justesse et un tel équilibre dans le dévoilement de ces sentiments humains, à la fois graves et légers et fragiles, finalement ?
C'est en essayant d'imiter notre nature, la nature. Je crois que une vie, quelle qu'elle soit, un couple, quel qu'il soit, traverse des moments de peine. Et dans ces moments de peine, il y a toujours des moments caustiques. Je me souviens de la perte d'être cher après laquelle on rigolait, on avait fait le pari de rire de ça. Et je pense qu'il y a toujours un peu de comédie dans les drames, dans les tragédies les pires, et du drame évidemment dans les tragédies, non, du drame, dans les comédies. Voilà, ça ira mieux dans ce sens.
Dans le bon sens.
Et puis, vous êtes plutôt un auteur qu'on peut dire engagé dans son art. C'est quoi le message que vous aimeriez faire passer par cette pièce ? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez vous aimeriez que le spectateur reparte de cette pièce ?
Bonne question. Plus j'avance, moins je crois à l'écriture en tout cas artistique, à message. Je pense que le théâtre peut être un miroir, peut être un questionnement, mais avant tout, une manière de divertissement. Pour moi, il n'y a pas de besoin de rendre le spectateur autrement que touché sur le moment. C'est déjà beaucoup. Peut-être un regard sur soi, un regard sur l'amour qu'on peut porter aux gens de manière fidèle à long terme. Les gens de notre famille, c'est un clin d'œil à la famille, c'est un clin d'œil à l'amour. J'ai trouvé l'œuvre de Michael Haneke, Amour avec Trintignant, et je me souviens plus maintenant du nom de la comédienne, ça va me revenir. J'ai trouvé ce film poignant, mais très très dur, et j'avais envie de quelque chose là. En tout cas, c'est sorti comme ça, de tendre.
Oui.
Donc peut-être en ressortir avec la tendresse.
Oui.
Malgré le fait qu'ils sont confrontés à des choses telles qu'évidemment la mort à ces âges-là.
Oui. Elle est même comique, hein, sur certains aspects. Donc. Cette pièce est quand même moins noire que les précédentes. Est-ce que c'est un tournant dans votre parcours d'auteur ? Est-ce que Julien Maje serait-il moins révolté et voir un futur auteur comique ? On n'en est pas là.
Je ne sais pas. Doxa Rouge, que j'ai écrite pour le metteur en scène Vincent Bonniot, s'appelait Doxa Rouge, comédie noire. Janine Rhapsody est une pièce que j'ai... j'ai écrite en pensant à la comédie, donc pour moi je pense que le drame n'est pas incompatible avec la comédie, je pense que c'est un peu mêlé.
Exactement. Ça se rejoint.
J'ai envie d'écrire les deux à la fois.
Oui. Et puis encore peut-être, Julien, quelques mots sur la collaboration avec Jean-Yves Ruff, qui a fait la mise en scène, hein, pour le moins originale, comme le verront nos auditeurs quand ils iront voir votre pièce. Et puis le choix des comédiens, hein, Jacques Michel et Yvette Terrola, dont je dois quand même relever la justesse du jeu, qui sont excellents.
Oui.
Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces choix. Ou...
Oui, c'est nos choix à Jean-Yves Ruff et moi, mais évidemment, lui, en tant que metteur en scène, c'est lui qui avait le dernier mot. Et on a trouvé l'idée plutôt excellente de proposer à Yvette de rejouer. Yvette qui joue quasiment plus, enfin qui fait surtout des tours de chant maintenant, et elle était enchantée de rejouer dans une pièce, enfin de rejouer, ça faisait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble en tout cas, Et Jacques Michel, ça a été aussi une idée, intéressante, enfin qui nous a paru juste d'emblée. J'ai travaillé avec lui à l'époque dans une autre pièce qui s'appelle Un homme seul au théâtre de Vidi. Et voilà, j'ai fortement recommandé à Jean-Yves. Donc voilà, ça s'est fait naturellement aussi et avec la tendresse qu'on a les uns pour les autres.
Oui. Ok. Et puis enfin, j'ai envie de reprendre cette citation du journal Le Temps, qui dit en parlant de votre pièce qu'il y a des vieux qu'on veut fuir parce qu'ils ressassent à l'infini, et il y a des vieux qu'on suit parce qu'ils stimulent l'esprit, et le couple d'automne appartient à la seconde catégorie. Une pièce à ne pas manquer, donc.
C'est une belle conclusion.
J'espère.
Un parcours, Julien Mage, professionnel, un parcours professionnel déjà bien rempli et diversifié, avec un succès rapide. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour vous ?
Je le vois pas, comme tous les artistes.
D'accord, mais encore.
C'est des métiers, très précaires. Ça peut, une saison, on appelle ça des saisons, comme les années scolaires, peut être très remplie, incroyable, et puis l'année suivante, il peut y avoir des, elles peuvent être. La saison peut être plus difficile, des projets peuvent tomber, ne pas avoir d'argent, etc. Donc pour l'instant, je le vois avec le présent, avec ce que je forge sur le moment présent. Mais j'ai répondu une fois à une question d'un journaliste à la radio aussi, en disant que j'ai fait du théâtre par le passé, j'en fais maintenant et j'en ferai probablement dans le futur. C'est ça qui est important, quoi. J'ai envie de dire.
La question, juste pour finir, ça serait plutôt alors, est-ce que vous avez déjà d'autres projets
en Oui, route, bien sûr. Bien sûr.
Des pièces de théâtre.
Des commandes personnelles, des commandes inspirées de classiques, comme j'ai déjà pu faire, notamment Sophocle, des projets autour de Tchekhov, etc. Oui, je manque pas de projets.
Il y a quand même du futur.
Voilà. Tout à fait, oui.
Un futur plutôt large. Et en tout cas, on vous le souhaite des meilleurs. Oui. Merci beaucoup à vous, Julien Mage, d'être parti ce soir
pour
Radio Django. On rappelle votre pièce qui s'appelle Automne et qui est jouée la semaine prochaine. C'est du 12 au 15 avril à la Grange de Dorigny. Donc, selon vous, on vous encourage à en faire de même. Allez voir cette pièce puisqu'elle est chez nous. Merci beaucoup, Julien Mage.
Merci.
Une bonne soirée.
Bonne soirée.
Et merci également à vous, Isaura, pour la préparation de ce sujet, avec quelques détails et quelques liens à retrouver sur notre site www.django.fm. C'est toi qui as fait la préparation de ce sujet. Merci.
Exact. Oui, merci.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. On vous a parlé de la pause syndicale. C'était dans la pause syndicale de la fermeture d'une maison d'accueil pour mineurs. Nous avons parlé de renvoi au Sri Lanka et du portrait à l'instant du metteur en scène Julien Mage. C'est ce qu'on vous a fait découvrir ce soir sur Radio Django et Radio La Fabrique. Tous ces sujets sont à retrouver à partir de ce soir, un petit peu plus tard. Mais oui, on va laisser le temps de découper les podcasts. Tout ça sur notre site www.django.fm. Comme d'habitude, comme vous le faites depuis pas mal de temps déjà, ça fait quasiment 3 ans que vous le faites. Merci beaucoup à Jonas à la technique ce soir. Vous dire encore que la semaine prochaine, nous parlerons de l'association Père. Et puis voilà, d'autres actualités qui viendront au fur et à mesure. Vous pouvez les suivre en tout temps, bien sûr, sur notre page Facebook Radio Django. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct à écouter sur radio.django.fm et sur le DAB grâce à La Fabrique. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.